Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. Les banquiers centraux sont inflexibles. La Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre, leurs collègues de Norvège, toutes ont monté leurs taux hier après la réserve fédérale américaine. La BCE réaffirme qu'elle est déterminée à combattre l'inflation. Christine Lagarde veut revenir à 2%. Alors, est-ce qu'ils sont complètement aveugles du monde dans lequel on évolue avec cette brutale remontée des taux qui fait que, quand la mer se retire, ceux qui n'avaient pas de maillot crèvent les yeux, et on a vu qu'il y avait notamment certains canards boiteux dans le monde de la finance. Est-ce que la tempête bancaire, ils ne la voient pas? Je poserai la question. Janet Yellen a un peu changé de musique hier devant le Sénat, depuis la chute de SVB en Californie. Une ambiance s'était installée selon laquelle le Trésor était là, la Fed était là, il ferait tout ce qu'il faudrait, il n'y aurait aucun problème pour assurer les dépôts. Elle a quand même déclaré qu'elle n'envisageait pas une assurance ou une garantie globale des dépôts hier devant les sénateurs américains. Musique qui change un petit peu de ce qu'on entend depuis la chute de SVB. On évoquera les rachats d'actions. Cette pratique est-elle condamnable? Et puis le RSA est-il une incitation à l'inactivité? Ou est-ce que c'est un faux débat, comme on le disait hier, avec notamment Michaël Zemmour? Ce sont les deux sujets évoqués par Emmanuel Macron. Deux questions sur les retraites, les deux mêmes questions qu'hier. Pourquoi être allé dans cette galère si, comme on l'a entendu, cette réforme est à peu près inutile, ou inefficace, ou injuste, ou les trois en même temps, et que d'autres solutions étaient possibles, voire même que l'on pouvait s'en passer? Bonjour Patrick Artus.
Bonjour Nicolas.
Directeur de la recherche économique de Natixis. Vous publiez De l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob, où vous expliquez que vous avez la conviction qu'on aura du mal à se passer de la casse fiscalité dans le monde de dépenses qui nous attend, avec un levier d'endettement public qui est quand même arrivé un petit peu à ses limites. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, d'ailleurs comme Patrick. Hein, et vous publiez Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Pensez-vous, Patrick Artus, que le message envoyé par les banquiers centraux depuis 10 jours est le bon message?
Alors, il y a un message.
On y va, on appuie, on augmente les taux.
Enfin, il y a un message très différent aux États-Unis et dans le reste du monde, enfin en Europe particulièrement. La Réserve fédérale va s'arrêter très très rapidement de monter ses taux d'intérêt. Et elle peut le faire parce qu'en réalité, l'inflation américaine diminue fortement. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais quand vous isolez les loyers qui ont toujours une grande inertie du reste de l'inflation, on est en dessous de 4% d'inflation aux États-Unis en ce moment. On était à 8,5% il y a 6 mois. Donc il y a une vraie désinflation. La Réserve fédérale peut arrêter de monter les taux. Ce que je ne crois pas, c'est qu'elle baisse rapidement les taux d'intérêt. Les marchés financiers croient qu'il y aura 3 baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale avant la fin de l'année. Mmh. Je crois que c'est très optimiste. Mais,
vous voyez qu'on va à 4,50, mais, comme ça,
4,75. Alors on va à 5. Pour l'instant, on est à 4,75. On va au plus à 5. Bon. Et ensuite, on va rester là jusqu'au début de l'année prochaine.
C'est même pas négligeable. Hein.
Oui, mais c'est pas...
500 points de base en l'espace de 2 ans et demi, 2 ans.
Oui, mais enfin, c'est l'inflation sous-jacente est encore à 5,5 aux États-Unis. Ouais. Enfin, mais il n'y aura pas de catastrophe économique aux États-Unis en dehors de la catastrophe provoquée par les problèmes des banques régionales, parce que les banques régionales jouaient un rôle extrêmement important, par exemple sur le financement de la tech, hein, ou les émissions d'actions de la tech. Il va falloir que les boîtes de tech trouvent des grandes banques pour remplacer les banques régionales. Mais enfin, aux États-Unis, on voit assez bien, et la Réserve fédérale est assez souple, et vous mentionniez l'interview d'Yellen. Bon, si une banque régionale de plus est en déconfiture, je parie que la Réserve, enfin le FDIC, qui est l'instrument agissant de la garantie des dépôts,
l'Agence de garantie des dépôts aux États-Unis,
garantira tous les dépôts.
Oui, si une banque régionale. Mais voilà, là,
elle peut pas promettre
de garantie globale.
Oui,
des
mais
dépôts.
elle peut pas promettre une garantie globale. C'est un problème d'aléa de moralité.
C'est un peu l'impression qu'on avait depuis quelques temps.
Bon, alors en Europe, c'est différent. Pour l'instant, nous n'avons aucun signe qu'il y a quelconque contagion au système bancaire européen. Les banques européennes vont bien, elles gagnent plus d'argent, leurs profits montent parce que les taux d'intérêt montent. Elles ont couvert contre le risque de taux leur portefeuille obligataire, ce qui est très différent des petites banques américaines. Et donc, la BCE et les autres banques européennes, la Banque d'Angleterre, se sentent assez libres de continuer à monter les taux. Et puis, l'inflation est beaucoup plus un problème en Europe qu'aux États-Unis. Donc, c'est assez logique que dans cet environnement, les banques centrales européennes continuent à monter monter les taux.
Il y a une question qui me vient. Bon, la démonstration que vous avez faite est parfaitement exhaustive. Et est-ce qu'on se dira finalement, quand on regardera dans le rétroviseur l'histoire des années 2010-2025, qu'on a vécu une erreur de politique monétaire qui est à inscrire dans l'histoire, ou au contraire, je ne sais pas, Christian Saint-Étienne, que nos banques centrales, eh bien, avaient su tenir compte des grands moments d'instabilité financière qu'on a pu connaître par le passé, et qu'elles ont fait à peu près ce qu'il fallait, même si elles sont un peu rentrées en terrain incognita.
Je prendrai pas la période 2010-2025. Je pense que les banques centrales ont bien réagi en 2008-2010 et pour la crise de la zone euro 2012. Il faut se souvenir d'ailleurs que tout vient de la crise de 29. Qu'est-ce qui se passe en 1929? La Banque centrale américaine ne comprend pas ce qui se passe. On l'a compris dans les années 60. C'est Milton Friedman avec Anna Schwartz dans les années 60, qui reconstitue la masse monétaire américaine dans les années 30. Donc on sait dans les années 60 mais la Banque centrale américaine ne le savait pas en 29, 30, 31, que la masse monétaire s'effondre, la masse monétaire baisse d'un tiers. Donc les économistes qui ont travaillé sur cette crise, notamment
Ben Bernanke,
et puis aussi directement, indirectement Yellen et son mari, on tous dit plus jamais ça, on fera plus jamais cette erreur-là, de laisser le système financier s'effondrer. Et donc on se souvient, 2008, on laisse tomber Lehman Brothers pour faire un exemple, et on se rend compte après que c'était une erreur. Mais les banques centrales font leur boulot. Là, je pense que votre question serait pertinente pour 2021-22. Ici, dans cette émission, avant que les banques centrales remontent les taux, j'avais dit qu'il faut les remonter, on attend trop. Et donc, d'une certaine façon, on a l'impression, et c'est particulièrement vrai pour la Banque centrale européenne, qu'elle monte très rapidement les taux pour se faire pardonner de ne pas l'avoir fait suffisamment tôt. Donc la question, c'est effectivement de réagir face au risque d'effondrement bancaire. Donc Patrick a bien expliqué que il n'y a pas pour l'instant de risque en Europe parce que la réglementation bancaire est bonne. Je ferai une petite distinction sur l'Allemagne, qui a obtenu que toutes ces banques régionales ne soient pas surveillées par la Banque Centrale Européenne, alors que la France, ayant un système bancaire très concentré, quasiment tout notre système bancaire est très surveillé.
Mais on a 5 banques systémiques, donc oui, évidemment.
Voilà. Donc, à cette provision sur le système bancaire allemand, je suis pas sûr qu'on ait pas de mauvaise surprise sur l'Allemagne, mais on a un système bancaire européen qui est beaucoup plus sain que le système américain. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, il y a des milliers de banques, et que quand il y a eu la crise des années 30, il y a eu, de mémoire, 3000 banques qui ont fait faillite.
Il y en a eu 500 après Lehman, personne n'en a parlé, mais 500 faillites.
Voilà. Donc le système bancaire américain est très émietté. Et effectivement, la question, c'est là aussi, est-ce qu'on va redescendre le seuil à partir duquel il y a une surveillance accrue sur les banques aux États-Unis? Alors, je pense que l'erreur centrale qui est commise actuellement dans la remontée très forte des taux, c'est l'erreur classique, dans d'autres domaines aussi, de mauvaise distinction entre flux et stock. Sur les flux, remonter les taux rapidement, ça pose pas de problème.
Mais sur les stocks, ça pose un problème
colossal, notamment quand vous avez des obligations à taux fixe et que vous remontez très fortement. Et comme les banques, notamment les assurances, sont gavées de taux fixe, quand vous remontez trop vite les taux, il faut pas qu'il y ait de crise de liquidité, parce que si ces intermédiaires financiers sont obligés de vendre dans l'urgence, ils vont enregistrer des moins-values considérables. Donc je pense qu'il faudrait faire une pause de 3 mois aux États-Unis et en Europe. Alors effectivement, je pense que ça va se faire tout seul aux États-Unis parce que l'inflation baisse fortement. En Europe, j'espère que la Banque centrale aura l'intelligence de le faire, et j'ai des doutes là-dessus.
Il y a une autre solution, c'est de décider qu'on fait une pause aussi sur la fair value, le mark to market, et qu'on impose finalement des reprises de portefeuille obligataire au prix d'acquisition. C'est un choix de régulateur.
Oui, mais si vous êtes obligé de vendre, si vous êtes non, quand vous vendez pas, ça pose... on pourrait faire ce que vous dites. Mais quand vous êtes SVB, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été obligés de vendre. Et ils sont obligés d'enregistrer.
Oui, mais ils ont fait leurs 2 milliards de pertes parce qu'ils ont vendu en valeur de marché et ils n'ont pas vendu en valeur d'acquisition.
On ne peut pas vendre en valeur d'acquisition.
Non, mais je sais bien.
La seule façon de vendre en valeur d'acquisition, c'est quand la banque centrale vous prend en pension.
C'est d'ailleurs le programme de la Fed qu'elle a mis en place en urgence où là, elle les prend en valeur d'acquisition.
Il y a deux problèmes. Je suis d'accord avec Christian que le premier problème, c'est que les banques centrales, et particulièrement la BCE, ont réagi beaucoup trop tard. On savait à la fin de 2021 qu'il y aurait de l'inflation et que l'inflation allait passer dans l'ensemble de l'économie, puisque chaque fois que les prix des matières premières ont beaucoup monté, l'inflation s'est répandue dans l'ensemble de l'économie. La BCE a nié ça. Il y a des communiqués de presse de la BCE, de son chef économiste, qui nie jusqu'au printemps 2022 qu'il y a un risque inflationniste. Si on avait gagné 6 mois ou plus 8 mois sur la remontée des taux, on aurait maîtrisé mieux l'inflation et la remontée des taux aurait été plus faible. Donc on paye le coût de l'inertie de la BCE ou de son incrédulité face à l'inflation. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est plus profond, qui est, est-ce que la politique monétaire, c'est le bon instrument pour lutter contre l'inflation?
Daniel nous répond non tous les jours.
On a décidé en 1980, en gros, qu'on allait utiliser la politique monétaire exclusivement pour lutter contre l'inflation et qu'on allait séparer la politique monétaire des autres politiques. Mais c'est un instrument très inefficace. Et alors, à chaque fois qu'on a utilisé la politique monétaire pour lutter contre l'inflation, on a déclenché une crise. La crise des actions en 2000, la crise des subprimes, la crise bancaire aux États-Unis aujourd'hui. Et parce que il faut des mouvements de taux d'intérêt extraordinairement élevés pour avoir un effet visible sur l'inflation. Et donc, ça pose un problème plus profond. C'est ce choix d'utiliser la politique monétaire pour lutter contre l'inflation est probablement un mauvais choix. Et on aurait dû rester dans un monde que suggérait Milton Friedman, avec des taux d'intérêt très stables, une création monétaire très stable, et utiliser, par exemple, la politique fiscale pour lutter contre l'inflation. On monte les impôts quand il y a de l'inflation, et on baisse les impôts quand il n'y a plus d'inflation.
Et moi, alors, du coup, j'entends très bien ce que vous dites, et je pense que comme on est quand même... Alors, on a eu un débat avec Jean-Marc Daniel endiablé il y a deux jours, qui nous disait mais tout ce qui se passe aujourd'hui est déjà inscrit depuis la fin de l'étalon or, il n'y a rien de neuf, et moi je lui disais si, il y a des choses neuves. Cette politique du quantitative easing a atteint des montants qu'on n'aurait jamais imaginé, les bilans des banques centrales ont des montants hallucinants.
Et alors le troisième problème, si je peux avoir une seconde pour finir, c'est que les banques centrales n'ont pas incorporé les autres objectifs qu'elles étaient supposées incorporer dans leur politique. Il n'y a aucun respect de la stabilité financière. Sinon, les prix de l'immobilier ne feraient pas ça. Donc, en réalité, les banques centrales font semblant de s'intéresser à la stabilité financière, mais ne s'intéressent qu'à l'inflation. Donc, quand l'inflation était de moins de 20% dans la zone euro, on avait des taux à zéro, on faisait du quantitative easing, les prix de l'immobilier faisaient n'importe quoi, mais ça n'émouvait pas les banques centrales. Si on réincorporait la stabilité financière comme objectif véritable des banques centrales, on n'aurait jamais baissé les taux d'intérêt autant, on n'aurait jamais eu autant de bulles, on n'aurait jamais eu autant d'endettement et on serait dans un monde beaucoup plus stable. Donc il y a trois erreurs des banques centrales. Alors une qu'on ne va pas corriger de sitôt, qui est l'utilisation de la politique monétaire pour lutter contre l'inflation, mais elles sont en retard sur l'événement systématiquement et on sait que la politique monétaire met 18 mois à avoir des effets. Donc il faut être en avance sur l'inflation et pas en retard. Mmh. Et deux, qu'elles ne s'intéressent pas réellement à la stabilité financière.
Alors c'est dans la mission officielle de la Fed, un peu moins explicite chez la BCE. C'est pour ça que ma conviction, c'est qu'on va faire de la hausse de taux d'un côté et de la liquidité.
Aux États-Unis, on a réouvert le quantitative.
Exactement. Ouais. Le bilan avait fait moins 600 milliards, il vient de faire plus 300. Et je pense que c'est ça le nouveau monde. On avance.
Je voulais poursuivre le raisonnement. Effectivement, quels seraient les autres instruments de politique monétaire autres que les taux d'intérêt? Il y en a deux. Alors, il y en a un qui semble très, très ancien, mais ça mériterait de retravailler. C'est l'encadrement du crédit. C'est-à-dire que alors les Allemands n'ont pas l'habitude, c'était une technique utilisée en France mais qui n'est pas forcément idiote, c'est donc d'avoir des contraintes imposées aux banques sur les missions du crédit.
Mais on a des contraintes. Le Haut Conseil de la stabilité financière a mis des contraintes de taux d'effort, des contraintes de durée.
Mais des contraintes qui disent vous ne pouvez pas augmenter de plus de 3% les crédits globaux. Ça, c'est un premier instrument qui probablement ne rencontrerait pas l'adhésion au sein du comité de politique monétaire, mais il y a un autre instrument qui est une variante de celui-ci, c'est d'avoir des coefficients de fonds propres très différents selon les natures de crédit, et notamment ce qui a conduit à la situation actuelle, c'est en Europe la facilité avec laquelle on a financé les leverage buyout, et je pense que les banques sont collées de manière très significative sur ces crédits. Et je pense que si on avait, et c'est encore possible aujourd'hui, bien que les banques aient changé leur politique dans ce domaine, si on avait eu des exigences de fonds propres différentes sur ces prêts très risqués, on aurait peut-être limité les effets de la politique de taux nul.
Oui, mais il y a des exigences de fonds propres très différentes. Plus un crédit ou un financement est risqué, plus l'exigence de fonds propres est élevée. Donc,
mais qui n'est pas fondée sur la capacité dans les prêts sur les leverage buyout, il n'y a pas d'exigence de fonds propres très supérieure. Il y a une surveillance particulière, mais il n'y a pas d'exigence de fonds propres plus élevée.
Vous avez également entendu Janet Yellen, Patrick Artus. Je n'ai pas envisagé une assurance ou une garantie globale des dépôts. Alors, vous avez entendu ça sur la longueur, et vous allez me dire qu'elle ne dit pas vraiment le contraire de ce qu'elle a pu dire ces derniers jours. Mais la perception globale qu'on avait de l'histoire, c'est qu'on avait une sorte de tandem Trésor Fed avec une lance à incendie monumentale qui ferait que, au grand jamais, personne ne verrait le moindre risque sur ses dépôts. À tel point, d'ailleurs, que le discours autour de SVB a été de dire que les dépôts, même au-delà de 250 000 dollars, seraient garantis. Et là, elle dit doucement les basses. N'imaginez pas que tout le monde sera couvert par une sorte d'assurance tout risque qui viendrait de Washington.
Mais elle peut pas dire autre chose. La seule politique.
Mais elle l'avait pas dit comme ça.
Non, mais la seule politique raisonnable, c'est de dire qu'il n'y aura pas d'assurance globale des dépôts. Et s'il y a une banque qui est au bord de la faillite, d'assurer ses dépôts au-delà des plafonds de 250 000 dollars. Donc de faire du coup par coup. Mais elle peut pas. Elle créerait un aléa de moralité absolument énorme aux États-Unis si on disait restez dans vos banques pourries, il n'y a pas de problème, la réserve fédérale sera là. Donc vous pouvez pas faire ça. Donc.
Vous croyez quand même que l'aléa morale de 2008, il est resté dans les esprits, qu'il ne faut pas le reproduire, qu'il faut tout faire pour éviter de retomber dans cette lecture un peu simpliste, mais pas complètement fausse, qui a été de dire vous avez privatisé les profits, vous socialisez les pertes.
Mais en 2008, on a fait une grosse bêtise qui n'est pas de ne pas sauver Lehman. On aurait sauvé Lehman, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes. Donc c'est une petite banque, Lehman, mais elle était systémique. Et donc on regrette tous que la réserve fédérale n'ait pas sauvé Lehman et elle ne refera pas deux fois cette erreur. Donc si à nouveau il y a une autre banque régionale en déconfiture, la réserve fédérale garantira l'ensemble de ses dépôts.
Ce qui serait plus approprié, c'est de baisser la barre qui conduit à une surveillance accrue sur les banques régionales américaines.
Elle était de 50 milliards, elle a été remontée à 250.
Par Donald Trump. En 2018.
Sous la pression d'ailleurs, notamment...
De ses banques régionales.
Et notamment du président de la SVB, Becker. J'ai oublié son prénom. Les rachats d'actions.
Enfin, si on doit conclure
tout
ce débat... Patrick le disait, et c'est ce que je dis aussi, c'est que la finance, de tous les domaines, c'est celui dans lequel il faut une stabilité des règles. Donc on le voit là, on relève les plafonds, les seuils à partir desquels on a une surveillance accrue, et on se rend compte qu'il y a une catastrophe. Donc il faut une stabilité dans la finance des règles pour stabiliser le système global, et chaque fois qu'on tripatouille les règles, c'est extrêmement dangereux, sauf quand on a des exigences de fonds propres supérieures. C'est la seule solution de marché qui permette d'obliger les banquiers à être plus prudents.
Les rachats d'actions sont-ils condamnables, Patrick Artus ?
Ça dépend comment ça se passe, de la façon dont ça se passe. Si une entreprise a des profits très élevés et n'a pas de d'investissement, de projets d'investissement rentables qui peuvent absorber ses profits. Il est optimal qu'elle rachète ses actions, ce qui transfère ses profits aux actionnaires, mais sous la condition que ces actionnaires fassent un usage intelligent des profits. Oui. Et donc, le cas idéal, c'est une entreprise a des profits qu'elle ne peut pas investir, elle rachète ses actions donc, elle rend l'argent aux actionnaires, et les actionnaires investissent dans des entreprises qui ont des projets rentables. Et
mais ça, on ne pourra pas le rendre obligatoire.
Oui, mais bon, il faut réfléchir. Mais c'est quand même très efficace. Et en particulier, en ce moment, il y a incroyablement de projets dans la tech, dans la transition énergétique, qui sont extrêmement rentables. Si des grandes entreprises ont des énormes profits, c'est bien qu'elles rendent ces profits aux actionnaires qui vont peut-être financer ces projets très rentables de la tech. Donc ça fait circuler l'épargne de façon optimale, les rachats d'actions intelligents. Le problème, c'est que ça se passe pas comme ça. Quand une grande entreprise rachète ses actions, elle rend l'argent aux actionnaires, et les actionnaires, qui sont en général des actionnaires institutionnels, réinvestissent l'argent en rachetant d'autres actions. Donc le résultat de cette mécanique, c'est simplement de faire monter les cours boursiers. Et donc ça, c'est complètement inutile et de toute façon inefficace. Mais il faudrait, avant d'interdire les rachats d'actions, il faudrait réfléchir à une méthode qui permettrait que les rachats d'actions, effectivement, fassent circuler l'épargne des entreprises où la rentabilité des investissements futurs est faible, vers des entreprises où la rentabilité des investissements est beaucoup plus forte. Et donc, c'est un problème de support. Enfin, si vous investissez dans la transition énergétique au travers de fonds dédiés, etc., à la transition, vous avez une utilisation intelligente de l'argent des rachats d'actions.
On marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai votre avis, Christian Saint-Etienne. Du côté de la France, l'idée, c'est d'imposer, dans ce cas-là, de redistribuer aux salariés. Et aux États-Unis, depuis janvier, l'idée, c'est de taxer les rachats d'actions à 1%, et Bruno Le Maire, Joe Biden, aimerait bien aller jusqu'à 4%. Parce qu'objectivement, aujourd'hui, le rachat d'actions est quand même un transfert qui échappe à la casse fiscalité. Hein. On marque une pause, on en reparle dans un instant. On évoquera aussi le RSA, parce que c'est un faux débat de considérer qu'il y a un problème d'incitation à l'inactivité. Il y a aussi le budget 2024. Est-ce que l'on peut imaginer que pour la première fois, enfin, la France reprend en main le contrôle de ses finances publiques? On finira par les retraites. Après, on peut se demander s'il y a encore une sortie de crise possible aujourd'hui.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis, qui a co-publié de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du cercle des économistes comme Patrick d'ailleurs, et vous publiez le conflit sino-américain. Pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Vincent m'écrit que, dans un cas sur deux, d'après lui, les rachats d'actions permettent d'investir dans la transition énergétique. Voilà. Alors, Christian Saint-Etienne,
oui, moi, je pense que je couplerai les rachats d'actions avec le débat qu'on a eu sur les super-profits.
C'est lié un peu, hein.
Ouais. Bon. Et je ne suis pas favorable à une taxation des super-profits en soi. Je suis éventuellement favorable à une taxation des super-dividendes, c'est-à-dire quand on augmente fortement les dividendes. Mais ce que je trouverais beaucoup plus intelligent, et ça peut se coupler avec les rachats d'actions, c'est d'obliger à des investissements dans la transition. Par exemple, la France...
D'obliger, alors. Obliger,
oui.
Bon.
Oui, obliger ou négocier. Mmh. Parce qu'en France, vous avez trois boîtes, en réalité, qui sont concernées. Vous avez Total, Engie et CMA-CGM, les super-profits. Vous avez peut-être une
quatrième. Pour les super-profits, oui, absolument.
Mais à peu près trois là, sociétés. Ouais. Alors, CMA-CGM a beaucoup investi dans la logistique. Ils investissent 90% de leurs profits, donc il n'y a pas de problème. La question, c'est pour Total et Engie. Or, vous le savez, pour accélérer la transition énergétique, on doit très très fortement développer l'éolien, mais également le solaire. Alors, Total a un programme d'investissement significatif sur le solaire, Engie également, mais moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire que, puisqu'ils sont très, très peu nombreux, je demanderai à voir leur responsable et je leur dirai, en France, nous voulons développer très fortement le photovoltaïque, mais à base de panneaux photovoltaïques importés de Chine, ce qui est complètement con. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut accélérer le développement du photovoltaïque en France ? Alors, il y a des innovations technologiques, il y a le projet Carbone sur Fos, mais il y a d'autres possibilités. Et quand on regarde Total qui dit qu'il investit dans le solaire, c'est beaucoup aux États-Unis. Ben, je leur dirais, écoutez,
Amérique centrale aussi.
Mettez 3 milliards d'euros sur la France en 2 ans sur le développement d'une filière de fabrication de panneaux photovoltaïques et on vous laisse tranquille pour le reste. Je pense qu'on pourrait faire la même négociation avec Engie. Pas sûr qu'il dirait non d'ailleurs, il préférerait vraisemblablement faire ce type d'investissement que d'avoir une taxe sur leur super profit. Et tout le monde serait gagnant.
Bon, ça a été dubitatif réaction du patronat hier, après que Bruno Le Maire a dit qu'au-delà de 5000 salariés en cas d'année exceptionnelle, donc de rachat d'actions exceptionnelles, il y aura l'obligation d'aller peut-être jusqu'à un doublement de la participation ou de l'intéressement versé aux salariés. En tout cas, c'est une mesure qui concernerait le monde très feutré du CAC 40, c'est pas une mesure de redistribution nationale.
Sur ce point, il y a quand même une remarque qui est faite par personne.
Allez-y.
On parle de super profit.
Oui.
Total ou Engie n'ont rien fait pour avoir ces super profits. C'est simplement, du fait du marché, une très forte hausse des prix.
C'est pour ça qu'on appelle ça une rente.
Donc on dit c'est dégueulasse parce que ça profite aux actionnaires. Mais, excusez-moi, et je prends le risque de choquer, c'est dégueulasse que ça profite qu'aux salariés. Puisqu'ils n'ont rien fait non plus. C'est simplement les prix. Donc ils ont déjà eu des primes, ce qui est bien. Mais pourquoi des surprimes ? C'est pour ça que je dis, pourquoi vous avez ces super profits, c'est parce que tous les Français ont surpayé l'essence et l'énergie. Donc c'est quand je dis réinvestissez sur le sol français en développant le photovoltaïque, ça permet de rendre à tous les Français. Pourquoi est-ce qu'il faudrait rendre qu'aux salariés ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a il y aurait une logique à ce que le gouvernement négocie avec ses entreprises pour qu'il y ait un retour à tous les Français, parce que c'est tous les Français qui ont payé la pompe.
Mais cet argument, si les actionnaires, pourquoi les actionnaires ont bénéficié alors qu'ils n'ont rien fait pour ça ? Pourquoi les salariés ont bénéficié alors qu'ils n'ont rien fait ?
Donc, sous réserve qu'ils aient déjà eu des primes, ce qui est le cas.
Là, il y a eu des augmentations sympathiques,
on va dire. Et puis, je termine d'ailleurs, alors je vais me faire des amis. Dans le contexte de Total, pour remercier des super profits et des super primes qu'ils ont eues, ils bloquent les raffineries. Donc, les Français ont surpayé l'essence pendant 2 ans et maintenant, on leur supprime l'essence. Enfin, on est dans une situation absolument hallucinatoire.
Patrick Artus.
Oui, 2 remarques. Total et Engie ont probablement pas les capacités technologiques pour fabriquer des panneaux solaires.
Non, mais ils peuvent investir dans des boîtes.
Donc je persiste. S'ils rachètent leurs actions, on peut mettre une contrainte sur l'utilisation de l'argent dans la transition énergétique, dans les investissements intelligents, et il y a des boîtes beaucoup plus technologiques et ciblées.
Oui, bien sûr, cet argent doit être investi dans les boîtes qui savent faire.
Et deuxièmement, il y a un danger.
C'est ce que fait Total aux États-Unis.
Il y a un danger dans le projet de gouvernement, c'est que ça discrimine encore plus les salariés des boîtes profitables des CAC 40 et les salariés des PME.
C'est pour ça que je fais la remarque.
Et en plus, les salariés français de Total sont
à 3 fois le SMIC en moyenne.
Non, mais n'ont aucune raison de profiter des profits de Total qui sont faits à l'étranger. Donc pourquoi pas les salariés en Angola, Nouvelle-Guinée-Papouasie, etc. Donc le projet de Bruno Le Maire ou de Macron est assez choquant parce que ça redistribue les profits de ces entreprises
sur des
salariés qui n'ont pas mérité de recevoir cet argent.
Et sur Saint-Etienne.
Oui, effectivement, Total n'a pas les technologies, bien qu'ils aient beaucoup investi dans des boîtes solaires aux États-Unis. Ils peuvent aussi développer leurs technologies, pourquoi pas, ou racheter des boîtes qui ont des technologies pour les pousser. Mais il y a le projet Carbone, ils cherchent 1 milliard d'euros, c'est peanuts pour Total. Alors, il faut faire une évaluation. Est-ce qu'il est bon ? Mais apparemment, il est bon. Il faudrait que Total, spontanément, dise je vais investir massivement sur le photovoltaïque en France. Ça, je vous garantit que ça serait bien reçu.
Les salariés du CAC 40 sont globalement en France les mieux traités. Et d'ailleurs, quand l'actionnaire du CAC 40 bénéficie de quoi que ce soit, souvent les salariés sont les premiers actionnaires de ces entreprises. C'est le cas chez Total, c'est le cas chez Société Générale, et il y en a d'autres. Le débat sur le RSA est-il fondé, Christian Saint-Etienne ? Je commence par vous, parce que vous êtes intervenu en deuxième sur tous les sujets pour l'instant. Est-ce qu'il est fondé, ce débat, en disant que l'arbitrage entre l'inactivité et l'activité est quelquefois ténu, et qu'il faut absolument que le travail paye plus, et qu'il faut absolument, finalement, à l'arrivée, mettre une contrainte d'activité sur les gens qui vont bénéficier du RSA ?
Bon, alors, c'est un sujet complexe, hein, donc il faut éviter les solutions à la va-vite. Alors, on a 1 900 000 personnes qui touchent le RSA, ce qui est gigantesque.
Ouais, même un peu plus de 2, je crois, aujourd'hui. Ouais.
Et ce qui est très significatif, c'est que seulement 27% ont la prière, que 27% des 2 millions de gens qui touchent le RSA... ils sont depuis moins d'un an, ce qui veut dire que 73% ils sont depuis plus d'un an. Alors quand vous êtes au RSA depuis plus d'un an, vous avez trois populations. Et je me base sur des conférences que faisait le patron de la NPE il y a une quinzaine d'années, qui a été aussi patron de Carrefour et dont le nom m'échappe à la seconde, Michel Blanc. Non, c'est pas Michel Blanc, mais c'est...
On va retrouver.
On va retrouver le nom. Et donc, il expliquait que quand il est arrivé, c'était la NPE avant, c'était avant Pôle emploi, il avait découvert que, à l'époque de mémoire, c'était le RMI, et donc il avait découvert qu'un tiers des gens qui étaient au RMI n'étaient en réalité pas employables. Hein. Donc, quand on est dans une situation de ce type, c'est la conséquence d'incapacité physique ou physiologique ou psychologique.
Hein, c'était Michel Bon.
Michel Bon, oui. Voilà, c'était oui, Bon oui. Et pas Blanc. La question centrale sur ce point, alors, on a l'effet retard sur l'effondrement de l'école primaire, puisque 20%, on est tombé à 18% maintenant, des enfants à la fin du CE1 ne maîtrisent pas lecture, écriture, calcul. Ça va alimenter les gens qui ne sont pas en mesure de s'insérer positivement sur le marché du travail. Donc, il faut continuer d'investir et de réinvestir sur les trois premières années de l'école primaire pour dégonfler.
Je sais que c'est votre combat. Alors, hein.
Ça prend 10 ans. C'est encore des effets plus longs que la politique monétaire, mais il faut le faire. Le deuxième élément, c'est que ça, c'est pour les gens qui n'ont pas d'incapacité physique ou mentale et que on peut reformer. Et il faut continuer de développer les entreprises d'insertion. Mais pour le tiers qui ne peut pas travailler, je milite pour une année indemnité permanente, comme cela existe aux Pays-Bas, de telle sorte qu'on les sort des statistiques. Ça n'a pas de sens de les laisser dans les statistiques de RSA ou les statistiques de chômage. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que sur le RSA, seulement 40% des gens qui sont au RSA sont inscrits à Pôle emploi, ce qui veut dire qu'il y a 60% qui ne sont pas suivis. Voilà. Donc, il y a tout un suivi à mettre en place, mais vous voyez que vous avez à la fois des politiques de moyen-long terme sur l'éducation, vous avez des politiques plus ciblé sur les gens qui ne peuvent pas vraiment, absolument pas travailler. Il faut leur donner un suivi personnalisé, social. Peut-être qu'ils doivent bosser simplement 15 heures par semaine dans les mairies, sur les parcs et jardins. Et puis, vous avez tout un travail de reformation des autres.
Après, il y a tous ceux qui ne le demandent pas aussi et qui passent sous les radars. Quelque chose à ajouter là-dessus, Patrick ?
Mais il y a vraiment deux populations qui touchent le RSA. Il y a une population qui est extraordinairement éloignée de l'emploi. Et donc, faut vraiment faire des efforts d'insertion, mais il y a des entreprises d'insertion, mais enfin, c'est limité. Et il y a une population qui est employable, et donc, faut vraiment distinguer ces deux populations.
Est-ce que vous imaginez que 2024 sera l'année où la France reprend en main ses finances publiques, l'année où effectivement on parvient vraiment à baisser les dépenses publiques ? Bruno Le Maire ne répète que ça depuis 10 jours, sans augmenter les impôts.
Alors, Bruno Le Maire prépare sa carrière politique future.
Sans doute.
Il est possible que... Allez, faisons de la politique fiction qui prépare un clash avec Macron pour justifier de quitter Bercy pour préparer la prochaine présidence.
Il a le FMI aussi, hein, qui lui trotte dans la tête.
Il a le FMI.
La tête du FMI.
Mais plus sérieusement, quand on regarde le sentier d'évolution de la dépense publique en France, Alors, il y a une micro-amélioration. On était 9 points de PIB de plus que la moyenne des... Alors, nous sommes 20 dans la zone euro. Nous étions, donc, à périmètre constant, 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Je crois que ça a baissé l'écart. On est passé à 8. Mais, néanmoins, l'écart est colossal.
8, oui, c'est ça.
Et on doit être à... 6 des 8 sont sur la protection sociale. Donc, on fait la réforme des retraites, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. On évoquait le RSA, les allocations chômage. Il faut quand même, à un moment donné, se poser une question sur les allocations logement, qui ont largement alimenté la hausse des loyers. Par exemple, quand on a instauré l'indemnité pour les jeunes, les loyers ont augmenté de 100 euros, les loyers ont augmenté de 100 euros pour les jeunes. Donc, il y a une vraie réflexion à faire sur beaucoup de postes de la dépense publique et leur optimalité.
2024, année de la baisse.
Mais on peut douter parce
Patrick
que
Artus.
Bon d'abord,
j'allais me dire non année de la hausse.
Non mais il y a des besoins légitimes nouveaux. Enfin on a des besoins dans l'éducation, on a des besoins dans la santé, on a besoin dans les dépenses militaires, on a besoin de la recherche développement, on a des besoins pour subventionner l'industrie puisque on a le droit de subventionner l'industrie maintenant. Et donc je doute que les économies soient au niveau des besoins nouveaux. Donc je crois qu'il faut plutôt s'attendre à la poursuite d'une hausse des dépenses publiques, même si il y a quelques postes sur lesquels, enfin, la numérisation des administrations, on peut faire des progrès, mais il y a beaucoup de composantes des dépenses publiques sur lesquelles, légitimement, on a besoin de plus d'argent, la justice, la police, etc. Et donc, je ne crois pas du tout à une baisse des dépenses publiques. La croissance potentielle de la France est comme extrêmement faible, parce que la seconde possibilité, c'est d'utiliser la croissance.
Ah bah oui, c'est d'augmenter le PIB. Et...
Simplement, la productivité est en baisse maintenant en niveau absolu, hein, en France depuis 2019, et elle se stabilise, mais on n'a pas de signe de redressement de la productivité. D'ailleurs, entre parenthèses, le niveau de la productivité aujourd'hui est presque 4 points en dessous du niveau du scénario le plus pessimiste du Conseil d'orientation des retraites pour la productivité. Donc ça laisse présumer, prévoir hein, des déficits du système de retraite encore plus élevés dans quelques années. Et donc, la seule solution... Enfin, si on ne peut pas utiliser la compression des dépenses, si on ne peut pas utiliser la croissance pour résorber les déficits publics, si en plus les taux d'intérêt vont se situer à un niveau plus élevé que dans le passé, ce qui accroîtra les intérêts sur la dette, on va probablement avoir 1,5 point de PIB de plus d'intérêt sur la dette dans quelques années. La seule solution, enfin, je ne vois pas comment on évite une hausse de la pression fiscale, on évite une hausse de la pression fiscale. Je ne vois pas comment on peut limiter le déficit à un niveau raisonnable sans hausse de la pression fiscale.
Cet auditeur PHF me dit: comment pouvez-vous dire que les rachats d'actions échappent à la fiscalité alors qu'ils contribuent à la hausse des actions qui sont, elles, soumises à l'impôt sur les plus-values? C'est vrai, enfin, oui. Si l'action est exécutée.
Oui, enfin, il n'y a pas de lien, enfin, il y a un lien à long terme sur l'ensemble du marché actions entre les rachats d'actions et le cours de l'entreprise. Il n'y a pas de lien évident à court terme, quoi. Je veux dire, quand on regarde, en théorie, on aimerait bien, mais enfin, c'est pas si clair que ça.
Je posais la question hier, Christian Saint-Etienne, sur les retraites. On a parlé avec Éric Zemmour, qu'il me pardonne, Michael, bien sûr, Michael Zemmour, qui est un jeune économiste qui a énormément travaillé les sujets, qui est très hostile à la réforme. Et il continue à dire qu'elle est inutile, qu'on pouvait s'en passer, qu'elle n'est pas forcément efficace, qu'on est allé trop vite sur un seul paramètre et pas tous les paramètres. Et on sait que c'est la réforme dans laquelle il n'y a que des coups à prendre. Que des coups à prendre. C'est une réforme qui laisse forcément des cicatrices. C'est la réforme la plus casse-gueule dans un quinquennat. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est allé faire dans cette galère?
D'abord,
pour trouver 15 milliards, 17 milliards à horizon 2030, alors qu'on sort 50 milliards tous les ans pour soutenir le pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, pourquoi avoir mené ce...
D'abord, moi, je suis en opposition totale à ce que la pétition de principe que vous venez de rappeler. Je dis pas que c'est votre position.
Non, mais c'est
ce que vous venez de rappeler. D'abord, si on allonge simplement la durée de cotisation, dans le cas précis, on faisait 4 milliards d'euros d'économie. En reculant l'âge de départ de 2 ans, on fait 16 milliards d'euros d'économie. Donc, c'est 4 fois plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans qui pose problème. C'est le fait que la réforme a été très mal faite. D'abord, on l'a bidouillé et bousillé le truc en 2019. Là, la réforme qui est proposée aujourd'hui, paramétrique, elle aurait été faite en paramétrique en 2019, éventuellement une réforme par point derrière, mais d'avoir voulu mélanger le paramétrique sous la réforme par point en 2019, c'est ce qui nous a mis dans la merde aujourd'hui. Donc la réforme a été mal faite, mais sur le principe de reculer l'âge de départ, ce que l'on observe, c'est que quand on recule l'âge de départ, le taux d'activité des gens concernés augmente. On a pris, je parle sous le contrôle de Patrick, on a dû avoir un taux d'emploi de la tranche 55-62 qui a pris plus 15 ou plus 20 points.
À peu près.
Donc
la réforme de 2010.
Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en réalité, le gouvernement n'a pas donné la seule bonne raison de reculer l'âge de départ. C'est justement l'augmentation du taux d'emploi. Au fond, tout ce qu'on est en train de dire sur les dépenses publiques et sur le reste, c'est que si le dénominateur augmentait, puisque le poids de la dépense publique, c'est le ratio entre le numérateur de dépenses et le dénominateur de PIB, si on avait le PIB qui montait, ça ferait baisser le ratio au moins autant
ça,
que de contrôler la dépense.
Oui,
non, mais, et donc, reculer l'âge de départ, c'est bon pour la croissance. Et donc, c'est souhaitable.
Et donc, il a fait ça parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait plus de croissance potentielle, parce qu'il
alors
fallait...
Justement, on se demande s'il a compris pourquoi il le faisait. On se demande s'il a compris, puisqu'il n'a quasiment pas utilisé l'augmentation de la croissance potentielle comme argument pour le faire. Alors, il est vraisemblable qu'il a voulu envoyer un message au niveau de la Commission européenne, dans la mesure où nous sommes
mondial,
le grand pays de la zone euro, nous sommes le seul grand pays de la zone euro qui a le double déficit, déficit public, déficit extérieur, puisque l'Italie est un excédent. Donc, il a voulu envoyer un message. Mais je pense que cette réforme, elle est bonne sur le fond, mais elle a été mal conçue et mal conduite.
Mal conçue, mal conduite, Artus.
Je crois qu'il y avait quand même beaucoup d'autres politiques à mener qui résorberaient le déficit de système de retraite. Un système de retraite ne doit pas rester en déficit. Je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, parce que c'est une utilisation inefficace des déficits publics.
Vous disent que 10 milliards sur la totalité de 340, c'est l'épaisseur du trait.
Mais regardez le budget du CNRS. Enfin, je veux dire,
c'est 10 milliards qui est pris sur l'éducation des enfants.
C'est 10 milliards qui est pris sur des dépenses publiques beaucoup plus importantes. Voilà. Et donc il faut rééquilibrer le système de retraite. Alors donc il y a un problème de méthode et un problème de politique. Le problème de méthode, c'est qu'on aurait pu demander aux partenaires sociaux de rééquilibrer le système de retraite. Partenaires sociaux le font avec la GIRC-ARRCO, les retraites complémentaires. On aurait pu donner mandat aux partenaires sociaux de trouver une méthode qui soit actée par le patronat et par les syndicats pour résorber le déficit de retraite. Et ils l'auraient trouvé, je pense. Et donc c'est un problème de manque de confiance dans la capacité des partenaires sociaux à gérer le système de retraite. Et puis, il y a un instrument qu'on n'a pas utilisé, qui est le taux d'emploi des jeunes. Le taux d'emploi des jeunes français, et c'est particulièrement de la tranche 20-25 ans, est considérablement plus bas que le taux d'emploi des jeunes européens, parce que les jeunes français rentrent beaucoup plus tard dans le monde du travail, ils ont des difficultés à trouver un emploi, et donc on pourrait avoir des politiques pour faire monter le taux d'emploi des jeunes, et j'ai calculé que si on avait le même taux d'emploi des jeunes de 20 à 29 ans, mais honnêtement le problème se joue sur les 20-25 ans que l'Allemagne ou que les pays scandinaves, on aurait 2 points de PIB de recettes fiscales en plus, ce qui correspond à peu près à un demi-point de PIB, 13 milliards de recettes de plus pour le système de retraite, et on résout le problème.
Comme on est à BFM Business, tu peux donner les niveaux, c'est-à-dire le taux d'emploi des 20-25 ans en France et dans le reste de l'Europe, c'est quoi?
Il faudrait que je sorte mes notes, mais il y a à peu près
20 pour les jeunes et 40% pour les autres.
C'est 20-25 ans, je crois. Le 20-24 ans, c'est autour de 40% en France et autour de 65-70% dans le reste des pays.
40 et 70.
Oui. Et si on résorbait ça, ça serait la meilleure politique de résorption du déficit des retraites, parce que les jeunes qui rentrent plus tôt dans le marché du travail auraient des carrières plus normales. Et voilà. Et donc, je crois qu'on n'a pas assez eu d'imagination. On aurait pu imaginer plein d'autres politiques qui aboutiraient à une résorption du déficit du système de retraite. Et puis, on n'a pas fait confiance aux partenaires sociaux pour avoir cette imagination. Donc, c'est relativement grave et ça sera difficile de renouer le fil avec les partenaires sociaux.
C'est mort, là. Hein. Franchement, j'avais mis comme question, existe-t-il une sortie possible au conflit?
Alors,
autre que le retrait pur et simple du texte.
Il s'est passé quelque chose de très particulier dans ce conflit. Ah, c'est la position de la CFDT et de Laurent Berger. si la CFDT avait eu une politique, une approche différente, on ne serait pas dans on n'aurait pas l'ampleur de la crise qu'on a. Donc la question, c'est la vraie question en réalité que vous posez, c'est qu'est-ce qui ferait que la CFDT change de position? Alors Laurent Berger est en train de creuser la tranchée. Il descend chaque jour en disant, de toute façon, je continuerai de mitrailler la réforme. La question, c'est effectivement, je pense que j'emboîterai sur ce qu'a dit Patrick, mais je ferai un exercice différent. En réalité, en 2030, même avec le recul de l'âge de départ et compte tenu de la réalité de la progression de la productivité, on va se retrouver non pas à l'équilibre, mais avec un déficit de 20 ou 30 milliards.
J'ai du mal à le chiffrer, mais je suis à peu près convaincu qu'on ne sera pas à l'équilibre.
Voilà. Donc,
notamment compte tenu des hypothèses de productivité et de taux de chômage.
Moi, je créerai une commission internationale.
International.
De 12 économistes. Je mettrai 2-3 types de l'OCDE. Quand je dis type, c'est homme ou femme. De l'OCDE, 2 ou 3 du FMI, 2 ou 3 de la Commission européenne, et puis 2 ou 3 experts français, y compris des syndicats. Et je leur demanderai de faire une prévision à 15 ans, simplement, de la progression de la population
mais Christian,
active.
Tu n'as aucune idée de l'évolution future de la productivité. Donc c'est un exercice.
Je leur demanderai de sortir des scénarios crédibles. Sans leur demander d'affecter une probabilité. Et j'ai été consulté par le corps sur le scénario de... Ils ont consulté une quinzaine d'économistes il y a un an, parce que la polémique avait commencé, sur la croissance de la productivité. Et j'avais dit, mais... Parce que toutes les prévisions du corps depuis 20 ans sont avec une productivité incroyable et un taux de chômage qui revient à 5%, alors qu'on n'a jamais eu de taux de chômage à 5%. Et donc, j'avais dit, faites au moins un scénario avec zéro productivité. Donc, c'est absolument clé. Et l'intérêt de la commission que j'appelle, ça serait de poser sur la table des scénarios envisageables sans leur demander de mettre une probabilité.
Et puis alors, circonstances aggravantes, on voit en Allemagne qu'il y a une limite à la politique qui consiste à repousser l'âge de la retraite.
J'allais vous le dire, on ne va pas repousser éternellement.
Alors, quand en Allemagne, Merkel a passé de 64 à 67 ans, les Allemands ont préféré prendre une décote et ne pas travailler jusqu'à 67 ans. L'âge effectif de départ à la retraite en Allemagne, il est d'un peu plus 64 ans.
Effectif, oui.
Et donc, il faudrait se réfléchir déjà aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on fait quand l'âge ne peut plus rien.
La productivité se redresse pas, et donc on aura un gros déficit du système de retraite en 2030, et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait en 2040, en 2050?
J'appuie sur la fiscalité, je fais de la capitalisation.
Il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est aussi de changer l'organisation du travail et de dire que, par exemple, après 62 ans, on peut prendre en compte le système suédois où, entre 62 et 65, les gens travaillent seulement 4 jours par semaine, une baisse de salaire.
Alors ça va se faire. Mais quand même, il y aura un problème macroéconomique majeur d'équilibre de système de retraite. Et si ce n'est pas en 2030, ça sera en 2035. Et donc, il faudrait réfléchir maintenant. Est-ce qu'on peut accepter une dose de capitalisation avec des organismes publics, co-gérés,
même gérés par les partenaires sociaux.
Par les partenaires sociaux.
En pension de gauche.
Ce qu'on voit dans les pays nordiques. Est-ce qu'on peut avoir une dose d'augmentation des impôts compatible avec la compétitivité? Parce que de toute façon, le vieillissement démographique touche tous les pays. Comment on partage le poids de ce problème entre les salariés actifs ou les retraités? Mais il faut se poser les questions stratégiques maintenant, parce que on pourra plus. C'est la dernière réforme.
Oui, c'est la dernière où on peut jouer que sur l'âge. Et c'est le mot de la fin, Christian.
Oui, et il y a une autre mesure aussi, qui a été mise en œuvre partiellement à un moment donné et qui pourrait devenir structurelle ou en tout cas pendant 4-5 ans de suite, c'est une sous-indexation à l'inflation. Ah, oui. Par exemple, inflation moins 1% sur les retraites.
Comme on a fait avec la GIRC-ARRCO.
Voilà. Ouais. Et donc, si on combine la possibilité après 62 ans de travailler que 4 jours par semaine avec une sous-indexation sur l'inflation, plus le recul à 64 ans, il est vraisemblable qu'on ne pourra pas aller au-delà. On peut commencer à avoir un cocktail de mesures qui tient la route.
Mais ça faudra,
merci pour vos
il faudra
réflexions.
Un cocktail.
Mais merci pour vos réflexions qui nous sortent un petit peu de la du corner total dans lequel on se trouve sur le plan national et politique sur ce sujet de la réforme des retraites. Patrick Artus aujourd'hui. Christian Saint-Etienne, rendez-vous lundi à 9h.